La science CQFD, Natacha Trioux.
C'est un lieu unique, l'un des plus grands centres de recherche publique au monde qui se consacre à la création musicale et à la recherche scientifique. Et si on visitait l'IRCAM ? Développer de la science et lui permettre d'infuser la création artistique, infuser l'art dans l'expérience de la recherche. Ce sont les objectifs de l'IRCAM, le centre de recherche scientifique, d'innovation technologique et de création sonore. Comment la science acoustique, la physique, l'intelligence artificielle peuvent pénétrer fertilement les arts musicaux. On se met au diapason des dernières avancées dans le domaine et ça tombe bien, l'Institut ouvre de nouveau ses portes au public. IRCAM, en avant la musique. Franck Madlener, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'IRCAM. Avec nous également, Fanny Gribanski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche au CNRS, actuellement en détachement et assistant professeur au département de musique de New York University, et rattachée entre 2019 et 2022 à l'équipe analyse des pratiques musicales du laboratoire STMS de l'IRCAM. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct des studios de France Culture. Vous qui nous écoutez, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, sur notre fil @sciencesqfd, où nous postons toutes les sources citées durant cette discussion. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc des horizons de recherche de cet institut, placé à la fois sous la tutelle du ministère de la Culture et du ministère de l'Enseignement supérieur. Fondé par le compositeur Pierre Boulez, l'IRCAM a ouvert ses portes en 1977, on l'écoute. En 1974, c'est notre archive du jour.
Je crois que c'est la première fois qu'on mettra en rapport des instrumentistes, des compositeurs qui ont à inventer ce qui est nouveau et des scientifiques qui aideront les compositeurs à inventer ce qui est nouveau. Nous vérifierons, au fond, si les instruments traditionnels ont encore quelque chose à dire. D'autre part, il y a un domaine extrêmement riche qui est l'instrument exploité par l'électroacoustique. C'est-à-dire quand il y a un interprète vivant, mais il y a tout un réseau d'interprétation de son instrument qui se fait par des circuits électroniques. Les compositeurs désirent très vivement un monde très élargi du point de vue sonore, et c'est exactement ce monde-là que les instrumentistes et les scientifiques, par la même occasion, les techniciens, justement, lui fourniront.
Vous allez être très certainement critiqué, Pierre Boulez, ne va-t-on pas vous reprocher de rejeter le passé ?
Et le passé, vous savez, vit très bien. Je crois qu'il vit même presque trop, je dirais, puisque presque toute l'activité de concert, en général, est axée complètement sur le passé. Il y a un très petit pourcentage sur le présent, sans parler du futur. Donc il est bien normal, pour rétablir un peu la balance, que nous nous occupions du futur plus que du passé.
Nous nous occupions du futur plus que du passé. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, Franck Madlener à l'IRCAM ?
Écoutez, nous nous occupons déjà du présent, et le présent est tapé par toute l'innovation qui nous entoure. On est quand même dans un monde des technologies, de la recherche, de l'anticipation. Évidemment, l'art n'est pas hors du monde, et il a affaire avec tout cela. Et le musicien, finalement, réunit dans son atelier un nombre considérable de savoir-faire et de sciences.
Fanny Gribanski, une réaction vous aussi à cette archive de Pierre Boulez en 1974 ?
Bah oui, alors je pense que ce qui est très intéressant, donc moi j'ai travaillé un peu sur l'histoire de l'IRCAM et sur l'histoire de sa fondation, et puis tout ça dans le prolongement de recherches plus générales sur les rapports entre art et science. Et ce qu'on voit bien ici à travers ce témoignage de Boulez, c'est l'importance des collaborations qu'une institution comme l'IRCAM va mettre en place entre donc non seulement des compositeurs et des interprètes, mais aussi toute cette série de métiers qui jouent un rôle très important dans l'innovation à la fois scientifique et musicale, les techniciens, toutes ces équipes qu'on voit travailler à l'IRCAM aujourd'hui et dont le rôle d'un point de vue historique est aussi très intéressant à mettre en lumière pour repenser l'histoire des pratiques musicales.
Alors avant de parler de la philosophie, des nouveaux horizons de cet institut, on peut revenir sur son histoire. En 1969, Pierre Boulez est chargé par Georges Pompidou de créer, de diriger un institut de recherche et de création musicale associé au Centre Pompidou. Franck Madlener, dans quel contexte a-t-il été fondé ce centre et puis pour répondre à quel enjeu ?
Écoutez, d'abord, il y a eu un appel à Pierre Boulez qui avait quitté la France. Il était en divorce d'avec Malraux et Marcel Landowski. C'était une star internationale de la direction d'orchestre. Il dirigeait à New York, il était à Londres, il habitait en Allemagne. Le pouvoir lui a proposé beaucoup de possibilités pour revenir en France, et il ne voulait pas d'orchestre, il ne voulait pas d'ensemble. Il avait ce modèle américain-allemand, laboratoire Bell, l'université de Stanford, tout ce qui a pu se développer dans la technologie du son, dans la synthèse du son, il avait cette idée qu'il fallait, comme en architecture, de nouveaux matériaux pour de nouvelles formes. Et que cela nécessitait une recherche collective qui n'existe que dans un laboratoire. Et donc il a souhaité imaginer ce laboratoire qui avait été, d'ailleurs il y avait eu plusieurs tentatives en Allemagne, et c'est par le concours de circonstances et sa proximité au président Pompidou que cela a pu se faire, avec la naissance du Centre Pompidou.
Oui, c'est qu'il faut aussi dire que l'IRCAM est juste en face du Centre Pompidou.
Oui, alors on a un souterrain qui nous relie, et par ailleurs, on a quand même des préoccupations communes, puisque le Centre Pompidou est un centre culturel, avant même d'être un musée, et donc dans le centre culturel, dans cet esprit-là, il y a le design sonore, l'architecture, la bibliothèque, la lecture publique. Vous voyez, il y a une infinité, évidemment le musée est très flagrant et très marquant, mais il y a une infinité d'activités. Il y avait même un centre de création industrielle qui a été absorbé par le musée en 92 et qui a finalement des liens avec l'IRCAM. On peut dire qu'un scientifique et un artiste ont des choses à se dire et ils ont des choses à faire ensemble.
Fanny Gribonski, sur cette histoire et sur la naissance de l'IRCAM.
Oui, alors je pense que ce qui est important, donc Franck rappelait ce contexte un peu international, aussi d'une rivalité entre différents centres pour la recherche en acoustique. Et ce qui est intéressant, c'est que le projet de l'IRCAM, c'est vraiment recentrer ces interactions entre recherche scientifique et son ou musique autour des pratiques artistiques. L'exemple que donnait Franck des laboratoires Bell ou d'autres exemples de synergie comme ça entre musique, sciences et technologie étaient plutôt centrés autour de développement de technologies de communication, les nouveaux médias, la radio, le téléphone, etc. Et dans ces années d'après-guerre, autour de cette figure évidemment de musicien, de Boulez, on voit vraiment une focalisation nouvelle sur la musique. Et ça, c'est très important du point de vue de l'autorité de cet art au sein de la société.
Et voilà, Pierre Boulez en rêvait depuis longtemps, un centre de recherche collectif qui unit la science et la musique. L'idée de départ, c'est tout de suite de réunir acoustique, physique, électronique, informatique, psychologie, psychoacoustique au sein de la recherche. Franck Madlener.
Écoutez, l'idée de départ, c'est déjà de faire travailler ensemble des cursus, des personnalités, des communautés hétérogènes et qui sont assez éloignées, ce qui n'est pas simple. Il y a eu dès le départ on pourrait dire une sorte de crise initiale qui est ce qu'a bien expliqué le chercheur de l'époque Jean-Claude Risset, qui était médaille d'or CNRS, qui travaillait vraiment comme un scientifique, qui disait on ne peut pas être à la fois laboratoire de recherche et palais de la découverte. Et bien précisément, l'IRCAM, l'histoire de l'IRCAM, c'est ce à la fois être dans le monde, ne pas du tout se situer comme un campus américain, travailler vraiment avec des artistes qui sont ici et présents et qui vont exister en dehors du laboratoire, et en même temps avoir le temps d'une recherche collective. Et ce que vous savez, ce qu'on voit très bien, c'est qu'il y a tout de suite une friction entre deux temporalités. La science est collective, elle a des grandes durées, elle a besoin de 5 ans, 10 ans pour faire avancer quelque chose, et l'artiste est beaucoup plus intempestif, impatient, il veut être solo dans son genre. Et donc il faut accorder ces deux temps dans un même espace.
Vous voulez dire que le temps de la science n'est pas le même que le temps des arts?
Il n'est pas du tout le même. Et puis en plus, il y a évidemment avec la science la capacité à objectiver, à dire on travaille ensemble, on gravit ensemble une montagne. Un artiste n'aime pas trop l'ensemble. Il préfère à un moment donné créer un monde unique. Et donc comment vous accordez ce monde unique avec un effort collectif? D'une certaine façon, si vous regardez l'histoire de l'art, il y a eu à tout moment ce rapport avec la recherche. L'atelier de la Renaissance, par exemple, du peintre, c'était un atelier collectif où certains fabriquaient des matériaux, d'autres des pigments. L'artiste signait alors même qu'il avait beaucoup d'assistants. Et donc, d'une certaine façon, cet atelier de la Renaissance a quelque chose à voir avec le studio de l'IRCAM.
Et alors aujourd'hui, quelle est la philosophie, la démarche emblématique de l'IRCAM? Quelle a été l'évolution justement de l'éthique de l'IRCAM?
Écoutez, moi je dirais, pour le résumer, c'est une fabrique de monde sonore. Donc fabrique veut très bien dire quelque chose de rationnel, d'artisanal. Et monde sonore, on a envie d'un peu d'imaginaire. Parce que sinon vous faites du sciart. Vous savez que le sciart, c'est ni science ni art, et c'est une espèce de chose sans saveur. Non, on fait à la fois de la science et on fait de l'art. Et à un moment donné, il faut qu'un monde secret. Donc c'est aussi une maison de la connaissance et de la sensation. Par exemple, à l'IRCAM, s'il est question de l'IA, s'il est question du métavers, on ne va pas discutailler entre culturels, on va expérimenter, on va éprouver, on va voir les effets avant même d'imaginer les problèmes. Donc c'est cette idée-là de quelque chose à la fois extrêmement pratique et en même temps qui se divise comme une grande unité mixte de recherche en champs du savoir. Voilà. Et donc le principe, c'est qu'on puisse gagner un peu de temps sur le monde de la production, qu'on évite le productivisme qui existe dans les arts et que des artistes puissent consacrer ce moment aux côtés des scientifiques et des ingénieurs.
Fanny Gribanski.
Oui, alors je pense que ce que l'IRCAM reflète bien, c'est vraiment la manière dont le son articule donc toutes ces approches possibles, toutes ces disciplines différentes. Alors Franck parlait du modèle voilà du studio Renaissance. Je pense que c'est effectivement un très bon modèle historique à garder en tête. Et ce qui est vraiment important à souligner, je pense, c'est la vitalité des échanges entre le domaine des humanités et le domaine de la science, qui n'est pas forcément si évident hein, à faire advenir dans le monde académique dans lequel on vit, où il y a comme ça des frontières très très établies entre notamment donc sciences dures, sciences dites dures et sciences humaines et sociales. Et pratiques artistiques. Et à l'IRCAM, on a vraiment aussi dans un même lieu hein, dans lequel les gens travaillent. Moi, j'ai beaucoup apprécié lors de mon séjour à l'IRCAM de voilà, aller tous les jours dans ces lieux et rencontrer tous ces gens. Il y a vraiment une synergie très forte entre ces différents domaines.
Franck Maillet.
Oui, je pense exactement que la dynamique du lieu, c'est le fait que c'est un collectif hétérogène, c'est qu'on ne parle pas juste entre soi. Et donc, c'est aussi une maison de la traduction. Quand vous dites interaction en science, ce n'est pas la même chose que pour un musicien ou un interprète. Donc, on a cette idée qu'il n'y a pas une seule langue, comme dirait Barbara Cassin, c'est vraiment une maison de la traduction pour des médiums où ça ne va pas de soi. Ensuite, il y a cette idée que l'artiste, l'ingénieur et le scientifique sont des témoins et des acteurs d'une révolution qui nous porte en ce moment à la révolution du numérique, la révolution digitale. D'une certaine façon, ce que Boulez a pu réaliser, c'est un momentum entre une volonté politique très forte, celle de Pompidou, une volonté individuelle qui était assez violente et volontariste et aussi forte, et puis une nouvelle ère qui est celle du développement de l'informatique et de la musique électronique. Et quand vous pouvez croiser ces trois moments, c'est assez rare dans l'histoire, vous pouvez dire qu'il y a une ombre portée qui continue jusqu'à aujourd'hui. L'antimodèle, on pourrait dire, alors qui existe aussi, ce serait d'une certaine façon l'artiste de campus, c'est-à-dire quelqu'un qui va travailler effectivement très bien, hein. Il y a des campus américains qui sont absolument formidables en fait de science, etc., mais qui ne va pas être dans le monde, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'aura pas nécessairement besoin d'une extériorité, d'un public extérieur. Et ça, dès le démarrage, Pierre Boulez et puis ses successeurs ont voulu éviter, en gros éviter quoi ? L'académisme de la recherche comme l'académisme de la création. Ces deux écueils, il faut naviguer entre ces deux écueils.
Oui, comme vous dites aussi, hein, l'interdisciplinarité, hein, c'est quelque chose de central pour l'IRCAM. Mais quelles sont les sciences présentées sur place, hein ? Il y a des sciences humaines et sociales, mais ce sont surtout des sciences physiques.
C'est surtout des sciences dites dures. Il y a le traitement du signal, qui est évidemment très important. Il y a la perception et la cognition. Il y a tout le travail sur les modèles physiques, sur la lutherie. Il y a le travail... puisque nous avons notre interlocutrice, il y a le travail sur l'analyse des pratiques musicales, qui est plus du genre dans le domaine des sciences des SHS. Et il y a aussi tout un développement qu'on a appelé les dynamiques créatives, où c'est la créativité même qui est étudiée dans son rapport avec l'ordinateur. Aujourd'hui, quand vous faites face à une intelligence artificielle, vous posez beaucoup de questions sur votre propre imagination et sur votre propre mode de production.
Et autre nouveauté, hein, nouveauté assez récente, puisque ça a été créé en 2019, IRCAM Amplify. Là, c'est une société mi-publique, mi-privée. C'est la recherche qui sort du laboratoire pour aller toucher l'industrie et l'industrie culturelle.
Oui, parce que je pense qu'il y a, quand on réfléchit bien à tout ça, il y a en présence quatre pôles. Vous avez la science, l'art, mais vous avez aussi la technologie et les industries culturelles. La science et l'art sont quand même minoritaires. Et même, malheureusement, on voit que dans le quotidien, il suffit de penser à la crise sanitaire, il suffit de penser à l'anthropomorphisme généralisé, il suffit de penser à l'ère du soupçon, la science n'est jamais gagnée. C'est-à-dire qu'il faut une science participative, c'est une question vraiment culturelle et de société. Donc je crois que ça reste minoritaire, alors même que nous sommes environnés par les technologies. La création musicale, c'est pareil. C'est quelque chose de fragile, c'est un écosystème qui dépend de beaucoup de paramètres et qui doit toujours aller vers son public et trouver son interlocuteur. Et en même temps, vous avez de l'autre côté les industries culturelles qui ont un essor très puissant. Donc on doit pouvoir, dans notre modèle, et c'est là où c'est original, passer du minoritaire au majoritaire, de, je dirais du nulle part ailleurs au partout ensuite. Donc ça veut dire lancer une société dont la mission est précisément, à partir de l'intelligence réunie dans un endroit, Place Stravinsky, et bien pouvoir atteindre le marché, donc parmi les 120, 140 briques logicielles, pouvoir emporter certaines d'entre elles vers les industries culturelles créatives, vers le jeu vidéo, vers le cinéma. J'ai beaucoup d'exemples que je pourrais vous donner ultérieurement sur des réussites d'IRCAM Amplify.
Ah bon, on y reviendra. Alors, les deux, hein, les deux grands volets qui font la spécificité de l'IRCAM, c'est d'une part celui de l'analyse audio-acoustique avec la dimension instrumentale et d'autre part l'analyse synthèse des sons, notamment la synthèse vocale. On y vient plus précisément.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
16h16 sur France Culture, on vous fait visiter l'IRCAM, le Centre de Recherche Scientifique d'Innovation Technologique et de Création Musicale avec Franck Madlener et Fanny Gribanski. Alors on vient de parler de la philosophie de cette institution, parlons à présent de sa recherche en analyse acoustique. Pour commencer, l'ESPRO. L'IRCAM rouvre l'ESPRO, c'est un espace de projection, une salle de concert et un lieu de science. Franck Madler, vous dites, l'ESPRO, c'est plus qu'un lieu, c'est un instrument. Qu'est-ce que ça veut dire ça ?
Ça veut dire que d'abord ESPRO, c'est le diminutif de espace de projection, donc on projette le son, on projette l'électronique, mais c'est surtout un espace pour l'expérimentation et pour l'expression artistique et scientifique. Autrement dit, on se trouve dans un espace dont on peut moduler, modifier tous les paramètres de la scénographie, les paramètres acoustiques, puisqu'il y a 171 panneaux, des périactes, qui peuvent être absorbants ou diffusants. Et donc, en pivotant, en faisant pivoter ces panneaux, ou certains d'entre eux, eh bien, vous transformez votre acoustique, vous passez, pour aller vite, d'un studio d'électronique hyper sec à une cathédrale gothique. Donc, vous avez déjà ce travail sur l'acoustique, puisque le son n'existe que dans un espace, et l'espace renvoie et reflète le son. Après, on peut imaginer des tas d'expériences, on parle beaucoup du métavers, on parle beaucoup de l'immersion, c'est devenu vraiment le sujet le plus à la mode. Eh bien, on parle notamment de l'ambisonique, qui est un des formats très intéressants qui peut après passer au casque binaural. Bon, tout ça, ça s'expérimente, ça s'écoute, et tout cela a besoin d'un espace. Et cet espace se trouve au cœur de Paris, à côté du Centre Pompidou, 16 mètres sous la fontaine Nikita Saint-Phal. Alors, je vous annonce un scoop, c'est qu'elle sera bientôt restaurée. Donc, bientôt, il y aura de nouveau les sculptures de Nikita Saint-Phal et de Jean Tinguely. Et donc, sous cette fontaine, à moins 16 mètres, il y a ce lieu qui est unique au monde, qui est ESPRO sonne avec esprit du temps. Et justement, à partir de ce soir, nous faisons une fête à l'ESPRO, c'est-à-dire qu'on va accueillir la French Touch et la French Tech, autrement dit des artistes de l'électronique, mais également nous aurons, pour tous ceux qui se disent « mais c'est quoi cet IRCAM dont on connaît à peu près l'acronyme, on ne sait pas ce qu'il veut dire », eh bien, vous le saurez, en venant samedi, tout l'après-midi, nous allons faire des portes ouvertes, on va faire des ateliers participatifs et chacun pourra s'essayer à l'IRCAM.
Fanny Gribanski, hein, pour parler de ce lieu emblématique qui est l'ESPRO, hein, ça c'est quelque chose, c'est très emblématique, très expérimental entre recherche et création musicale.
Oui, et je pense que ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire donc, de ces interactions entre art et science, on voit toutes sortes de lieux comme ça qui ont servi d'espace d'expérimentation pour les scientifiques. qui est intéressant, c'est évidemment la superposition entre ce modèle du laboratoire et puis celui de la salle de concert. Donc l'idée de faire rentrer le public dans cet espace d'expérimentation et donc de lui proposer aussi cette expérience de la science en action. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique dans cet espace de projection. Et j'ai hâte de le redécouvrir quand je rentrerai à Paris.
Alors Franck Madelena, vous dites, hein, c'est une pièce maîtresse de l'IRCAM qui sert à la recherche musicale et scientifique, mais est-ce que vous auriez des exemples de ces recherches avec, grâce à cet instrument ?
Absolument. Donc on a beaucoup travaillé notamment sur les filtres, sur la convolution. Je vous donne un exemple. Nous captons l'empreinte d'un lieu. Hein, imaginons une église ou...
Ce studio.
Alors là, il n'est peut-être pas très caractéristique. Il est sec par définition. On capte l'empreinte de Notre-Dame, voilà. Et ensuite, on peut conférer cette empreinte à un autre lieu. Il y a eu une œuvre comme ça d'Olga Neuwirth qui s'est appelée Encantadas. Elle a voulu qu'on aille à Venise, c'est toujours sympathique comme invitation, pour pouvoir justement capter avec un micro, donc vous imaginez un micro bulle de 300, qui peut capter à 360 degrés l'acoustique du lieu. Autrement dit, la réponse du lieu. Vous envoyez des sons et vous voyez comment ce lieu réagit. Et ensuite de quoi vous faites un filtre et vous faites une convolution pour que quand les musiciens jouent à Paris, à New York, à Londres, la pièce... vous vous retrouvez virtuellement à Venise. Et là, on se rend compte que finalement, il y a un déplacement mental et c'est une sensation, c'est pas théorique, c'est absolument physique. On se retrouve ailleurs par le son. Nous avons travaillé aussi, je me souviens très bien que Joël Pomera était venu parce qu'il voulait tester la Wave Feed Synthesis. Si vous voulez, la Wave Feed Synthesis, c'est le système de front d'onde virtuelle où on fait croire à votre cerveau qu'il y a un impact sonore tout proche de vous, ou à 10 mètres, ou à 20 mètres, ou à l'infini. C'est le principe de Huygens. Enfin, c'est un principe finalement de faire croire que il y a eu un son et un impact là. Et donc, tout ce travail-là nécessite beaucoup de temps d'expérimentation. Ce qui est très fort dans l'espace de projection, donc il y a eu des travaux parce qu'il y avait de l'amiante, donc on a eu 7 ans de fermeture, 7 ans de bonheur chez les autres, mais c'est très agréable de pouvoir retrouver un espace, vous en savez quelque chose à Radio France, et donc de pouvoir à nouveau expérimenter les choses, mais surtout retrouver le public. Puisque l'idée, c'est que le public qui va descendre à moins 16 mètres dès ce soir, il va avoir une expérience, je pense, à nul autre pareil. C'est-à-dire cette salle, d'abord, vous traversez des laboratoires, le sol est orange, hein, c'est très années 70, il y a des escaliers, il y a beaucoup d'escaliers. Vous descendez, et puis vous arrivez dans cette espèce de cathédrale avec des échelles rouges, c'est très rétro-futuriste. Et puis, soit vous êtes debout, ce soir on sera debout, c'est plutôt électro, soit vous êtes assis, soit même vous êtes couché. On a fait un polytope couché sous une voûte de laser. Et donc, cette diversité aussi de positions fait partie de l'expérience et du voyage sonore.
Là, toutes ces expériences que vous nous décrivez, ouais. Qu'est-ce que techniquement ça implique comme savoir-faire ?
Savoir-faire, d'abord, on ne demande pas aux artistes, comme je vous disais, on ne fait pas du SIART, on ne demande pas aux artistes d'être scientifiques. On leur demande d'avoir de l'imagination, c'est déjà pas mal. On demande d'avoir des idées fixes. Un jour, un compositeur anglais avait dit « Je rêve d'un orchestre qui parle ». Non pas que les musiciens parlent, mais que ce qui sort de l'orchestre, c'est comme une voix. Eh bien, entre ce « je rêve » et « on y arrive », il y a 12 mois, 18 mois, où on fabrique un logiciel, où des thèses se font, et où une œuvre qui n'a plus besoin d'explication, se crée et se donne. Et donc, c'est ça que, finalement, les artistes trouvent. Il y a avec eux des computer music designers, donc ils travaillent en studio, qui savent exactement ce qui se passe dans la recherche et qui se trouvent aux côtés des artistes. Et puis les ingénieurs sont, et puis il y a des étudiants. C'est une ruche d'étudiants. Nous avons un cursus d'informatique musicale, nous avons un master, et nous sommes très liés, évidemment, puisque c'est une unité mixte de recherche CNRS, on est liés au CNRS et on est lié à Sorbonne Université. Donc c'est toute cette ruche-là où on ne dit pas on parle une seule langue, non, on parle plusieurs langues et on se comprend.
Alors on est en train de parler d'acoustique musicale. Ouais. Fanny Grybanski, on peut peut-être ensemble définir qu'est-ce que c'est l'acoustique musicale et puis quels sont ses principaux objets et méthodes de recherche.
Alors, ça serait assez difficile de donner une définition univoque de l'acoustique musicale, et c'est peut-être ça le principal intérêt de cette discipline, c'est qu'elle est, par essence très plurielle, et historiquement, elle émerge de toutes sortes de courants de recherche, aussi bien donc du côté des sciences dures, hein, on l'a dit, que des SHS c'est des sciences sociales. Et surtout, c'est une discipline qui émerge en très forte interaction avec des différents domaines d'activité à la fois industriels, mais aussi militaires. Hein. Une grande partie de la recherche, par exemple, en synthèse vocale peut être rattachée au développement de technologies de décryptage de messages communiqués entre des alliés ou des ennemis pendant les conflits armés. Donc, il y a une histoire, je dirais, sociale et culturelle très, très riche de cette discipline qu'on peut donc tracer du côté de la physique, la psychologie d'un côté, et puis la musicologie, d'autres disciplines des sciences humaines et sociales, et puis toutes sortes d'autres activités, aussi bien muséales que la construction d'instruments de musique, que la construction d'autres technologies sonores. Donc c'est une discipline, si je puis dire, qui a les pieds un peu partout dans le social. Et c'est ça qui en fait un objet de recherche très, très riche pour les chercheurs.
Alors dans ce centre de recherche, l'équipe Systèmes et signaux sonores, audio-acoustiques, instruments décortique les mécanismes de production de son par tous les types d'instruments, des cuivres aux cordes, en passant par la voix ou les systèmes électroniques. Franck Madlener, pour quelles raisons, quels sont les objectifs de ces scientifiques ?
Il y a d'abord un objectif de connaissance, ce qui n'est pas négatif, qui est plutôt même indispensable. Connaître l'acoustique, connaître la nature même, la physique du son. Et puis connaître, ça veut dire aussi pouvoir manipuler, pouvoir manœuvrer, pouvoir faire de la synthèse ultérieurement. Et il y a notamment une chose magnifique dans cette équipe, c'est tout ce travail qui s'est passé sur les transducteurs. C'est-à-dire que si vous prenez une surface, prenons cette table, vous lui mettez un transducteur, elle peut se transformer par captation de la vibration en instrument. Ça, c'est une chose possible. On peut même imaginer un groupe d'instruments où, en fait, les caractéristiques de la clarinette se transfèrent vers le violoncelle qui se transfère vers la percussion. L'idée même des modèles physiques, c'est une grande innovation et grande recherche très importante d'imaginer, en fait, non pas un instrument musical, mais un modèle physique qu'on va faire jouer et on va écouter comment il sonne. Donc il y a l'aspect de connaissance et puis il y a l'aspect d'expérimentation et de pratique. Voilà, et c'est l'une des équipes les plus importantes. Et puis aujourd'hui, vous savez que je donne des applications peut-être plus industrielles. Il y a des grosses questions sur l'optimisation des matériaux, notamment des haut-parleurs, le côté comment pouvoir rendre un petit haut-parleur aussi performant qu'un grand, eh bien, il y a des questions d'acoustique très directement et de systèmes physiques qui sont impliqués là-dedans.
Alors, ce grand axe de recherche de l'IRCAM, qui est l'analyse sonore, nous y avons donc jeté une oreille pour notre reportage du jour, grâce à notre femme orchestre à nous. Bonjour Céline Lozen.
Bonjour Natacha.
Vous vous êtes rendue à l'IRCAM, au laboratoire Sciences et Technologies de la Musique et du Son, pour vous plonger dans un laboratoire physique et virtuel, pour y découvrir comment on fabrique des sons d'instruments de musique.
Oui, avec Thomas Ellis, son directeur, on a plongé dans la lutherie virtuelle. Un laboratoire où la recherche scientifique et technologique s'adonne à la création sonore. Alors ici, chercheurs, ingénieurs, techniciens et artistes inventent des sons d'instruments qu'on aurait du mal à imaginer synthétiques tant ils sont réalistes. Pour reproduire toute la finesse et la richesse des sons naturels, ils se fondent sur un formalisme solide, géométrie différentielle, système hamiltonien et selon les lois de la physique. Thomas Ellis m'a proposé des écoutes comparées du piano électromécanique Fender Rhodes, des cuivres et des cordes. Je vous laisse écouter ça.
Voilà, sur ce son, donc on peut entendre l'original, et puis bah, le second, on peut se dire quand même que si on l'avait écouté sans savoir, il peut paraître assez réaliste, on pourrait imaginer qu'il a été joué. Et donc là, je vais le rejouer. Ici, on a le son naturel, et ici, le cuivré.
Donc, on sent la différence.
Oui, qui a beaucoup plus de richesse. Et en plus, le cuivrage est un phénomène qui va plus ou moins s'activer en suivant aussi le phrasé du musicien. C'est-à-dire que si dans la phrase, il y a des notes qui sont jouées un petit peu moins fortes, ça va moins cuivrer. Et puis s'il y a des notes qui sont plus fortes, ça va cuivrer. Donc c'est un phénomène comme ça qui est progressif et qui suit, on va dire, l'amplitude des notes qui sont jouées par le musicien. Donc de quoi il est question dans cette équipe, c'est de traiter tous les systèmes au sens large, qui peuvent produire du son et avec une dimension physique. C'est-à-dire on va toujours regarder comment le son est produit. Ça peut être par des circuits électroniques audio, comme les synthétiseurs, les amplificateurs, les effets qu'on peut retrouver sur les guitares électriques, par exemple, les synthétiseurs analogiques. Ça peut être aussi électroacoustique, avec le haut-parleur qu'on va étudier, mais aussi des instruments comme le piano électromécanique Fender Rhodes qu'on retrouve en jazz, où là-dedans on retrouve de la mécanique, de l'électronique, mais aussi du magnétique, de la vibration de barre. Et puis bah, tous les instruments plus traditionnels, hein, les percussions, les cordes, les vents, les cuivres qui sont un peu particuliers dans les vents parce qu'ils ont justement cette propriété de cuivrer, et puis la voix évidemment. Donc dans les autres systèmes qu'on simule physiquement, bah, y a des choses assez sur des premiers éléments de circuits audio-électroniques par exemple. On a reproduit une pédale wah-wah, donc je vais vous faire écouter le son original qu'on envoie dans la pédale virtuelle. Et le son qu'on envoie dans la pédale. Ce qui est intéressant sur cet exemple, c'est que donc la pédale wah-wah, hein, qui est une pédale de guitare assez classique, on peut vraiment, même si on veut, éteindre la pile en cours de route. Enfin, on resimule vraiment toutes les équations physiques pour voir ce que ça donne. Parce qu'il y a des musiciens qui s'amusent aussi à ça, à rajouter des résistances pour moduler la tension et voir comment va se comporter la pédale. Et là, je vais vous faire écouter une plaque qu'on frotte. On peut obtenir donc du coup des sons qui ont une base physique mais qui ne correspondent pas à des instruments existants.
Ça sonne presque de manière surnaturelle alors que c'est voilà. Réaliste.
Oui, c'est physiquement fondé, mais effectivement, on se rend compte qu'on peut aller vers des sons assez chimériques, on va dire.
Ce qui est intriguant dans votre bureau, c'est qu'on voit ce tableau noir avec toutes ces équations.
Bah, on n'utilise plus beaucoup. Maintenant, on utilise beaucoup plus le tableau
Ah oui, donc la partie expérimentale est vraiment collée derrière votre bureau.
Oui, et puis on a aussi accès à la chambre anéchoïque qui est juste derrière.
Et donc là, on va où?
Alors là, on va dans l'espace expérimental.
Ah oui, j'ai déjà un instrument prêt à être analysé.
Donc je reviens vers cette bouche artificielle robotisée.
On se place derrière l'instrument.
Ouais, on va se placer derrière l'instrument. Et puis, pour vous expliquer tout ce qu'il y a dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses, on va partir de l'arrivée d'air. Donc, on a une arrivée d'air qui est de l'air comprimé, un capteur de pression et de température qui est en amont d'une électrovanne. L'électrovanne, c'est le robinet qui va nous permettre d'ouvrir plus ou moins, et en temps réel, l'arrivée d'air. Derrière cette électrovanne qu'on peut piloter, on a ici un gros capteur qui est un débitmètre. Donc là, on mesure, on pourrait dire, pour simplifier, le souffle du musicien. C'est encore en amont de la bouche. On a aussi un capteur de température dans la bouche. Et puis, en émetteur, on a des LED infrarouges qui sont dans le fond de la bouche et qui vont l'éclairer de l'intérieur. Et on va voir pourquoi tout à l'heure. Donc ensuite, on arrive, si vous regardez devant, ici, on a deux lèvres qui sont des chambres en latex remplies d'eau, posées sur des supports en résine qui vont modéliser, qui vont servir de guide déjà, et puis on peut aussi modéliser en quelque sorte l'appui sur les dents avec ça. Le remplissage des lèvres est très très précis, hein, parce que les vérins qui nous permettent de remplir ça ont une précision d'environ 10 micromètres. Donc là, il y a un petit système de moteur aussi qui permet de régler l'écart entre les lèvres au repos. On a aussi un capteur de lumière infrarouge. Alors c'est là que justement, quand les lèvres vont se mettre à vibrer, on va avoir de la lumière qui va traverser, puisqu'on avait les LED infrarouges qui étaient à l'intérieur de la bouche. Et à travers l'intensité qui est reçue, on va pouvoir faire une estimation de l'air d'ouverture entre les lèvres. On pourrait mettre une caméra endoscopique, mais en fait, on n'en a pas eu vraiment besoin. Donc, on s'est contenté de ça. Ça a suffi pour les premières expériences qu'on a faites. Alors sur cette bouche artificielle, il n'y a jamais eu de volonté de faire un robot musicien artistique. C'est vraiment dans le but de faire un banc qui soit complètement reproductible et qui nous permette... alors dans un premier temps, ça a été de faire de la recherche de compréhension de comment tout ça fonctionnait. Et ça nous donne du coup un outil formidable. Hein. C'est un banc d'essai pour étudier ce qu'on veut et à notre demande et si on veut pendant 3 heures. Et une fois qu'on aura valider le principe, il y aura encore probablement une phase pour avoir un outil utilisable par un musicien. Donc c'est vraiment, tout ça c'est très phasé en fait dans le temps.
Merci Céline Lausanne pour ce reportage et puis nous avoir fait rencontrer cette bouche artificielle robotisée. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Franck Madlener?
Écoutez, vous ne la verrez pas en scène de sitôt, mais on pourrait peut-être se demander si... Vous savez que les ensembles baroques, c'est un sujet dont on devrait parler à l'IRCA, mais les instruments baroques anciens sans piston, c'est très très difficile. Vous écoutez un Brandebourgeois de Bach, très souvent l'ensemble baroque a du mal à pouvoir jouer juste la trompette. Peut-être on pourrait devenir un partenaire pour aider ça, étudier cette bouche artificielle. La même équipe, a quelques années, a permis de reconstituer des instruments disparus, hein, par exemple la cornue de Pompéi, un instrument qui n'existe plus, à partir des dessins, à partir des modèles physiques, on a la capacité aujourd'hui de remodéliser et reconstituer un instrument. Voilà, c'est évidemment...
Ça sonne comment, une cornue de Pompéi?
Comme une cornue de Pompéi, vous pouvez imaginer. Ça sonne, ben c'est pas très loin de ce qu'on a entendu là. C'est une trombe, finalement, assez grave, et puis elle a ses échelles. Et donc, ça a été présenté notamment au Louvre-Lens, quand il y avait une exposition sur les instruments. Il y a aussi ce travail sur un patrimoine, puisque finalement, et le son, et l'acoustique, et les instruments font partie d'un patrimoine, et la science vient aider à rendre ce patrimoine vivant, comme on dit.
Fanny Gribonski, une réaction vous aussi à ce reportage?
Bah oui, alors je pense que ce qui est très frappant dans ce reportage, c'est vraiment la complexité hein, du travail qui est effectué par ces chercheurs de l'IRCAM, qui est lié à la multiplicité des paramètres qu'il faut maîtriser pour comprendre ce qui se passe quand on produit un son. Hein. Cette bouche artificielle, elle vient bien exemplifier le fait que travailler sur le son, c'est pas seulement travailler sur le son qui est produit par un instrument de musique ex nihilo, mais c'est le son qui est produit par l'interaction entre cet instrument et puis un être humain ou alors sa reproduction robotique. Ce qui intervient là-dedans, on entendait Thomas Ellie énumérer l'ensemble de ces paramètres, hein, la température, on peut penser aussi à la pression du souffle. Et donc ça, c'est vraiment des questions qui ont posé d'infinis problèmes aux acousticiens tout au long de l'histoire. Et donc c'est assez stupéfiant pour une historienne d'entendre les réponses technologiques et scientifiques qui sont apportées aujourd'hui à ces questions acoustiques.
Franck Madlener.
Écoutez, une pièce magistrale, je saute du côté artistique, une pièce magistrale qui s'appelle Metallix de Yann Maresch, c'est l'histoire de la trompette par le changement virtuel des sourdines. On passe finalement par toute l'histoire du jazz et de la trompette uniquement par cette modification physique. C'est une pièce vraiment extraordinaire.
On peut faire, hein, comme on vient de l'entendre, de la lutherie virtuelle, hein, qui crée sur ordinateur des instruments qui n'existent pas physiquement mais qui respectent les lois physiques. On peut aussi faire de la lutherie hybride. Franck Madlener, quelle est la place de l'intelligence artificielle dans ces recherches, hein, qu'apporte l'IA en analyse acoustique?
Alors écoutez, l'IA est déjà une espèce de déferlante, puisque ceux qui ne l'utilisaient pas, disons ceux qui étaient davantage dans une informatique experte, maintenant utilisent ces modèles, beaucoup notamment dans l'analyse synthèse et autour des voix. Et donc que peut faire l'IA, puisqu'on voit la puissance qu'ont développé notamment les GAFA avec des moteurs de calcul extrêmement lourd. Et puis cette idée aussi qu'on peut tout faire et que finalement la machine peut à son tour produire des à la manière de, en texte, en image, en tout ce qu'on veut. Je pense qu'une des idées fortes de l'IA, c'est de renverser un tout petit peu la position du créateur, c'est de se dire qu'il peut s'observer lui-même dans une tendance, dans une similarité, et trouver des espaces de liberté. C'est-à-dire aussi composer par l'oreille, se dire voilà un genre que je peux explorer, que je peux démultiplier, et comment je vais finalement faire l'inverse de l'IA, c'est-à-dire désapprendre. Je pense qu'une des bonnes définitions de la créativité, c'est désapprendre. Et ça, l'intelligence artificielle n'est pas encore capable de désapprendre.
Le désapprentissage, ce serait quelque chose d'excitant en intelligence artificielle.
Ce serait de changer de domaine, de classe de domaine, et puis toute autre chose. Vous savez que très souvent, on nous raconte, voilà, les gens de l'industrie culturelle qui aiment bien la technique, ils disent, on peut faire le tube du siècle avec de l'IA. Et puis après, ils vous racontent tout de suite, mais il faudra toujours la touche humaine pour nous rassurer. En fait, ce qui serait beaucoup plus intéressant, ce serait d'imaginer que on vous recommande, par des playlists intelligentes, on vous recommande des musiques, non pas celles que vous connaissez, mais des musiques beaucoup plus éloignées, qui auraient un point commun, une structure commune. Donc, par exemple, je me suis dit, vous aimez le slam, vous connaissez les polyphonies de Bali, découvrez par exemple une œuvre pour percussion de Xenakis. Et donc, on aurait enfin une playlist intelligente qui ne vous assigne pas à un seul genre culturel. Là, il y aurait une rupture d'utilisation de l'IA dans le domaine des industries culturelles.
h 42 sur France Culture Oxymore de Jean-Michel Jarre qui présentera samedi à 14h à l'IRCAM Mort Oxymore. Nous parlons tout au long de cette heure de cette institution unique qui a un pied dans les sciences, un pied dans l'art. On en parle avec son directeur, Franck Medlener, et avec Fanny Gribonski, chargée de recherche au CNRS et rattachée à l'équipe analyse des pratiques musicales du laboratoire STMS de l'IRCAM entre 2019 et 2022. Nous venons de parler du premier axe majeur qui est l'analyse audio-acoustique. Parlons à présent du second volet majeur de l'Institut, l'analyse et la synthèse des sons, et notamment la synthèse vocale. La synthèse de la voix, Franck Medlener, c'est un défi technologique.
Oui, et puis c'est une histoire ancienne. Vous savez qu'il y a très longtemps, on avait déjà créé la voix de Farinelli, du Castrat, alors qu'il n'y a plus de Castrat et pour cause aujourd'hui. Et puis on est allé beaucoup plus loin aujourd'hui avec les nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de métamorphoser, de créer des masques vocaux, même du clonage vocal. On peut même synthétiser des voix historique. On peut aussi leur faire dire ce qu'elles n'ont pas vraiment dit. Donc là, il y a toutes des questions d'acceptabilité. D'ailleurs, on va faire une table ronde qu'on appelle Fiction Science vendredi 13 à 19h, autour de ces multiples applications qui, à la fois, ouvrent l'imagination et en même temps nous mettent un peu en garde sur les possibilités. Une application très concrète d'IRCAM Amplify, Vocalise de la MGEN, vous mesurez votre fatigue vocale. C'est-à-dire que cette application peut analyser, c'est pas mal pour la radio, pour les profs, peut analyser les informations fréquentielles de la voix avec SuperVP et proposer des conseils et des pratiques pour prendre soin au quotidien. Voilà un exemple très pratique de ce qu'on peut faire avec la voix. Et puis on a un logiciel qui s'appelle Trax, qui permet un traitement de la voix et du son qui peut métamorphoser tel personnage politique ou n'importe qui on peut changer son expressivité, on peut changer son genre, il peut devenir une foule ou elle peut devenir une foule. Voilà, ça c'est les quelques multiples métamorphoses de la voix. Alors pourquoi c'est si fascinant ? Parce que notre oreille est experte par rapport à la voix, et si on arrive à faire ces transformations sans que l'artifice ne se découvre, ça veut dire qu'on a réussi quelque chose, une symbiose fulgurante.
Fanny Gribanski, hein, sur ce défi technologique qui est celui de la reproduction d'une voix.
Oui, bah alors effectivement, comme le disait Franck, il y a une très longue histoire de cette fascination pour la voix et puis la possibilité de sa reproduction mécanique. On a toute une série d'exemples de machines parlantes depuis l'époque moderne. Et alors évidemment, ce que ça pose comme problème, c'est les implications éthiques. Donc on voit très bien les diverses applications qu'on peut faire de ce type de développement, mais avec tous les problèmes donc de créer des documents qui font effectivement parler des gens de choses dont ils n'ont pas parlé, etc. Donc il y a là peut-être un nouveau champ aussi pour la régulation des nouvelles technologies à l'aune de ces développements acoustiques qu'il faut envisager.
Oui, vous parlez des implications éthiques, ça me fait penser à Thierry Ardisson qui avait ressuscité Dalida avec une interview et sa voix reconstituée à partir des technologies développées par l'IRCAM.
Oui, dans une émission Hôtel du Temps, ou de la même façon qu'on a pu travailler sur le procès Pétain, il ne s'agissait pas de faire un deepfake, mais de partir du verbatim, du texte du procès du maréchal Pétain, de partir de la voix de l'acteur et puis de la rapprocher du vrai Pétain. On a aussi travaillé avec Marilyn, c'est Marilyn Monroe lisant ses carnets intimes. C'était une œuvre de Philippe Parrainaud. En effet, il y a des questions éthiques. En effet, il faut... Mais on peut aussi se dire que lorsqu'on arrive à générer avec de l'IA, avec de l'ingénierie sonore, à générer des voix, notre capacité critique, notre vigilance augmente. Celui qui peut faire peut analyser. Et donc là, il y a un enjeu, c'est pas l'obscurantisme de dire on touche pas, au contraire, on génère, on regarde, et puis on arrive à développer une perspective critique sur tout ce qu'on voit, entend, exactement comme pour la vidéo.
Et Fanny Gribanski, la voix, c'est le seul instrument dont tout le monde sait naturellement jouer, mais c'est aussi l'instrument le plus complexe hein, dans sa constitution et dans ses comportements possibles.
Oui, alors d'abord, il est plus difficile à objectiver parce qu'il est situé à l'intérieur du corps, donc on ne peut pas faire exactement les mêmes types d'expérimentations avec les voix qu'avec un violon, un piano ou un instrument qu'on peut tenir comme ça devant soi. Alors, l'histoire de l'acoustique est traversée par différents... dispositifs expérimentaux qui peuvent paraître un peu intrusifs. Hein. On voit l'intégration de capteurs à l'intérieur du larynx, etc. Donc, il y a toute une histoire comme ça d'expérimentation autour de la voix pour essayer d'en décrypter un peu ces mystères. Mais effectivement, c'est aussi un instrument qui... je parlais de la multiplicité des paramètres hein, qui sont impliqués dans la production du son. C'est un instrument qui réunit aussi des facteurs émotionnels. Hein, dans quel état est-on au moment où on parle? Et donc, il y a peut-être la plus grande complexité de phénomènes associés à la production du son sont réunis ici dans cet instrument très particulier.
Franck Madeleine.
Oui, il y aura dans les portes ouvertes un atelier pour les jeunes enfants, Bestio Robot. Quelle voix veux-tu conférer à ton robot? Et le choix de cette voix a beaucoup de sens. Est-ce que c'est une voix humaine, proche, plutôt futuriste ou pas? Et donc, à nouveau, quand vous pouvez fabriquer, parce que l'idée, ce serait que les enfants puissent fabriquer et designer. Le design sonore, d'ailleurs, est un grand département perception design sonore très important à l'IRCAM. Si vous pouvez designer quelque chose et vous pouvez aussi réfléchir à l'intention que vous donnez à cette voix. Est-ce qu'un jour on aura des machines qui feront l'histoire du soir avec la voix de la mère, du père ou de qui on veut?
De belles projections.
N'est-ce pas?
France Culture, la science CQFD, Natacha Trio.
À 16h48 sur France Culture, on vous fait visiter l'IRCAM, un centre qui a les pieds dans la science, les pieds dans l'art. On en parle avec Franck Madeleiner et Fanny Gribanski. Nous venons de parler des principaux axes de recherche de ce centre et nous arrivons à la fin de cette émission. Alors pour finir, j'aimerais qu'on écoute une œuvre intrigante, innovante, qui concentre tous les enjeux et problématiques abordés durant cette émission. C'est la sculpture sonore de Bill Fontana, Silent Echo, Notre-Dame 2022. Est-ce que je peux vous demander, Franck Madlener, de nous raconter cette œuvre d'art créée par l'IRCAM ?
Alors, écoutez, c'est une vraie expédition. Bill Fontana est un artiste américain qui a été tétanisé par l'incendie de Notre-Dame, comme beaucoup d'autres, et qui a imaginé qu'on puisse placer des petits capteurs, des capteurs sismiques, si vous voulez, sur les cloches, qui sont immobiles. Elles sont immobiles, mais elles vibrent. Et lorsqu'elles vibrent, en fait, elles captent un champ sonore, le chantier de Notre-Dame, une sorte de carte postale sonore de la ville de Paris. Alors, nous captons ces fréquences, on les reçoit sur un serveur à l'IRCAM et on les a envoyées, c'était absolument magnifique, sur la terrasse du cinquième étage du Centre Pompidou. Donc, face aux deux tours immobiles, vous aviez cette rumeur qui est imperceptible à l'oreille, mais qu'on peut mixer et écouter. Donc, on avait une sorte de d'écho intérieur de Notre-Dame. C'est-à-dire que tout objet est... Quel objet symbolique comme Notre-Dame vibre, sonne, et c'est ça la grande idée que n'aurait pu faire qu'un artiste, que ne peut faire qu'un artiste, utiliser une technologie à un dessin vraiment pour une vision artistique. Et c'est presque un design urbain, c'est d'imaginer ça dans l'espace urbain, dans la ville. C'est-à-dire deux cathédrales se font face, Notre-Dame et le Centre Pompidou, puisque Renzo Piano, l'architecte, avait considéré qu'il regardait, enfin qu'il créait la cathédrale du XXe siècle.
Fanny Griwanski, votre réaction également à cette sculpture sonore ?
Bah oui, alors c'est vraiment la cloche, c'est peut-être l'instrument le plus fascinant du point de vue de l'histoire de ces interactions entre art et science. Encore une fois, un instrument qui a posé toutes sortes de problèmes aux acousticiens au cours de l'histoire. Et là, on voit bien, alors à la fois l'importance évidemment symbolique de ces objets, mais aussi cette relationnalité, cette relation étroite entre les objets sonores et leur environnement, qui est ici magistralement illustrée par ce projet, et que j'ai aussi, encore une fois, hâte de découvrir quand je serai de retour à Paris.
Et ce que permet cette œuvre, c'est que tout vibre autour de nous, mais le plus souvent, on ne perçoit pas cette vibration du monde.
Oui, il faut être un peu attentif, et puis un artiste nous rend attentif au monde sonore. Je pense que l'audio et le son, c'est devant nous. L'hégémonie du visuel a un terme, et avec le son, on est à la radio, donc parlons-en, et on va faire des belles choses ensemble, je crois, dans l'avenir. On peut vraiment se dire qu'un tout un monde, tous des mondes lointains et proches existent uniquement par le son.
Alors là, on parle, je trouvais intéressant de faire écouter cette œuvre d'art de Bill Fontana. Ça montre aussi que le patrimoine, c'est un axe majeur de l'IRCAM. Pour arriver sur la fin de cette émission, on parle de patrimoine, on parle de présent, mais quel serait le futur de l'IRCAM ? Vous le rêvez comment, Franck Madlener ?
Je le rêve comme unique, singulier, c'est-à-dire une œuvre, et comme indispensable parce qu'il sera dans le quotidien. Il sera dans le quotidien avec quelques innovations. Et ainsi, on pourra démontrer deux choses. Qu'il n'y a pas d'innovation sans une recherche, et une recherche publique. Et deuxièmement, qu'il n'y a pas d'appropriation du présent sans les artistes. Si on peut démontrer ça, pas par la parole, mais par les faits, par les œuvres, par les recherches, par les actes, qu'il y a une pensée hors du marché, mais qu'il y a aussi une pénétration du marché. Là, je pense qu'on a rempli une chose et qu'il faudrait aujourd'hui, en toute urgence, démultiplier le nombre d'IRCAM dans tous les domaines de la culture.
Oui, c'est-à-dire, vous parlez de recherche publique, on peut aussi évoquer une recherche européenne.
Absolument, et internationale.
Eh bien, merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. C'était passionnant et réjouissant. Je rappelle que l'IRCAM ouvre ses portes au public aujourd'hui et jusqu'au 17 janvier, un mardi prochain. Concerts, installations, rencontres, portes ouvertes du laboratoire et expériences participatives. L'IRCAM est en fête. Tout le programme est en ligne et France Culture est partenaire. J'aurai par ailleurs la joie d'animer cette fameuse table ronde sur la voix manipulée, la voix de synthèse. Demain soir à 19h, c'est gratuit et vous êtes invité. Et un petit mot également, j'en profite, nous apprenons ce matin avec les résultats médiamétriques que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en direct et en podcast avec des audiences records pour France Culture. Donc merci à vous pour votre écoute, votre fidélité. Merci de choisir France Culture pour vous informer. Il est l'heure à présent de retrouver notre chronique quotidienne, celle d'Étienne Klein. C'est le pourquoi du comment.
Dieu est-il scientifiquement démontrable ? Je vous ai déjà expliqué que l'idée d'atome a été pensée et débattue pendant plus de deux millénaires, sans qu'on puisse déterminer si elle avait ou non une contrepartie dans la réalité. Et puis un jour, au début du XXe siècle, son existence a pu être démontrée, mais on a très vite réalisé que l'atome découvert n'a pas les propriétés de l'atome qui avait été préalablement imaginé. D'où une double leçon. D'une part, l'atome des physiciens est un objet dont les propriétés n'avaient été préalablement imaginées par personne. D'autre part, aucun objet physique ne ressemble, même de loin, à l'atome tel qu'il avait été imaginé par les grands anciens. Je me demande naïvement, vous me pardonnerez le saut quantique, si cette double leçon ne vaudrait pas aussi pour Dieu lui-même. Si, par je ne sais quel moyen, on parvenait à démontrer un jour son existence, sommes-nous bien certains que celle-ci serait conforme à l'idée préalable que nous nous sommes faites de lui? Et si ce n'était pas le cas, par quels indices pourrions-nous parvenir à le reconnaître en conclusion de telle ou telle recherche? Vous m'accorderez en effet que pour reconnaître un être, qu'il soit physique ou transcendant, il faut déjà le connaître. Or, quels sont les attributs de Dieu que nous pourrions connaître à l'avance et qui pourraient un jour nous le rendre connaissable et reconnaissable? Je doute que les théologiens, pour ne parler que d'eux, puissent se mettre d'accord à ce sujet. Se pourrait-il au demeurant que, comme cela s'est passé pour l'atome, que le Dieu existant se révèle fort différent du Dieu qui avait été théorisé? Et dans ce cas, comment pourrions-nous établir le moindre lien entre les deux? Permettez-moi de vous faire part de deux autres réflexions personnelles, en ces temps où d'aucuns vont un peu vite en besogne en avançant que la science aurait prouvé Dieu et en le faisant savoir urbi et orbi. Il me semble même faire preuve, c'est le mot, d'une certaine naïveté, d'abord à l'égard de l'idée de Dieu. Car si celui-ci apparaissait comme l'aboutissement d'une démarche scientifique, c'est-à-dire s'il était le résultat positif d'une enquête rationnelle menée par les chercheurs, son prestige se verrait sérieusement rabougri, si vous me permettez l'expression. Il n'aurait plus que le statut d'une connaissance. Une telle chute ontologique serait non pas la mort de Dieu, au contraire même, mais celle de la religion ou de la foi. Il ne serait plus nécessaire d'y croire, et cela n'aurait d'ailleurs plus de sens. Et par effet rétroactif, il faudrait alors considérer qu'avant ces soi-disant découvertes, Dieu n'aurait été qu'un bouche-trou cognitif, un mot masquant et déguisant somptueusement ce que nous ignorons, un être seulement invoqué pour combler le vide qui sépare nos connaissances des questions demeurées jusqu'alors sans réponse. Prétendre prouver scientifiquement l'existence de Dieu serait également faire preuve de naïveté à l'égard de la science elle-même. Car si la science devenait capable de délivrer une conclusion aussi définitive à propos de ce qui est a priori hors de ses champs d'action et d'investigation, cela impliquerait qu'elle aurait complètement terminé sa propre construction, au point de pouvoir trancher toutes les questions qui se posent, y compris celles qui ne sont pas scientifiques. Or, comme le disait le regretté Michel Serres, la science n'est pas, comme on pourrait le penser, le monde des problèmes en général, mais seulement le monde des problèmes tels que leur position même implique la possibilité de les résoudre. Ce n'est pas le cas de la question de l'existence de Dieu. Et comme vous le savez, la physique, pour ne citer qu'elle, n'est pas du tout achevée. Elle bute notamment sur la contradiction formelle qui existe entre ces deux théories fondamentales, la relativité générale d'une part, la physique quantique d'autre part. Voilà pourquoi il est recommandé de ne pas mettre en la matière, comme en beaucoup d'autres, la charrue de la conclusion avant les bœufs de la recherche.
Merci Étienne Klein pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Merci Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Garance Préma-Agnolo, Natacha Demoule, Céline Lauzen, Ève Etienne. À la réalisation, Daphné Leblon. À la technique aujourd'hui, Étienne Rouche. Cette émission, ce podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France, quand vous le voulez, où vous le voulez, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.
Elle a provoqué la pire catastrophe démographique de l'histoire de l'humanité, la peste.
L'exemple même d'une maladie qui est liée au développement humain et à la manière dont l'humanité s'est développée à une certaine époque.
Comme il l'a fait pour le choléra, le Covid, la variole ou le sida, le médecin Renaud Piarou, chef de service à la Pitié-Salpêtrière, va mener l'enquête pour vous. Mécanique des épidémies, 7e saison La Peste, un podcast de Renaud Piarou et Anne de Pelchin sur franceculture.fr et l'appli Radio France.